Le débat du jour. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Il y a précisément 60 ans, c'était le 28 septembre 1958, les Français votaient en faveur du projet de constitution proposé par le général de Gaulle. Le texte a donné naissance à la Ve République. Cette constitution a subi depuis quelques modifications, mais dans l'esprit, elle est restée la même. Le président et son gouvernement détiennent des pouvoirs importants, trop au goût de certains qui voudraient retrouver un plus grand équilibre entre justement le gouvernement, l'exécutif et le parlement, le législatif. Ils proposent des changements radicaux et veulent qu'un nouveau texte régisse la France dans le cadre d'une 6e République. Pourtant, la constitution de 1958 a fait ses preuves, disent ses partisans qui estiment qu'en changer serait une erreur. Alors cette constitution de 58, faut-il la garder? Faut-il en changer? On va en parler avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Marianne Condé, constitutionnaliste, professeure de droit public à Paris-1-Sorbonne. Panthéon Sorbonne, spécialiste des institutions de la Ve République et auteur notamment de droit constitutionnel. C'est aux éditions LGDJ. Bonsoir à vous, Marianne Condé.
Bonsoir.
Alain Gérard Slama est lui essayiste, historien. Le dernier livre en date s'appelle « Les écrivains qui ont fait la République », c'est chez Plon.
Hein, c'est ça.
Et bonsoir Alain Gérard Slama.
Bonsoir.
Et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Alors beaucoup de ceux qui militent pour une nouvelle constitution remettent en cause la place du président dans le dispositif. Trop de pouvoir pour un seul homme, disent-ils. Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne Condé?
Je pense que ça pose effectivement problème, parce que d'abord, ce n'est pas conforme au texte de la Constitution. Selon le texte de notre Constitution, le président de la République est un arbitre. Et dans les faits, c'est à peu près lui qui dirige tout. Et d'ailleurs, De Gaulle l'avait dit très clairement le 8 août 58 devant le comité consultatif constitutionnel. Il avait déclaré, donc quelques semaines avant que le peuple ne vote pour la Constitution, le président de la République est un arbitre qui ne se mêle pas de politique et qui ne doit pas s'en mêler. Il est là tout simplement pour veiller à ce que le fonctionnement des institutions soit régulier comme c'est prévu dans la Constitution. Donc ça, c'est le premier problème. On n'est pas conforme au texte. Et deuxième problème, c'est que cette grande concentration du pouvoir peut générer des abus parce que le président n'est pas responsable. Et Montesquieu l'avait déjà constaté, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Or, sous la Ve République, il ne trouve pas beaucoup de limites.
Mmh. Alain Gérard Slama, l'équilibre des pouvoirs donc entre législatif et exécutif est satisfaisant pour vous?
Il y a eu indiscutablement, je ne dirais pas nécessairement un renforcement des pouvoirs du président depuis le général de Gaulle, mais de Gaulle était plus malin, si je peux dire. C'est-à-dire, d'abord, il s'entourait de gens de tout premier plan et des personnalités à qui il faisait confiance pour être ses ministres et assumer des politiques. Par exemple, la santé, c'était Debray. Par exemple, l'agriculture, c'était Pisani. Je veux dire qu'il y avait autour du général des gens qui pouvaient assumer déjà des fonctions et des missions à un niveau national avec une notoriété nationale.
Vous
et
un niveau de compétence extrême. Après.
Et non, ça a été de moins en moins le cas. À cause, évidemment, de ce problème de la hiérarchie entre le président de la République et le Premier ministre. Alors, beaucoup disent aujourd'hui, c'est le mal qui tue tout le reste. Il ne faut pas cette hiérarchie pour finir. On va donc faire un modèle à l'américaine, où le président, en effet, a énormément de pouvoir, mais où il y a une séparation totale entre l'exécutif et le législatif. Et le président ne peut rien, en ce qui regarde l'Assemblée, si ce n'est le veto. Et puis, vous avez d'autre part, ceux qui vous disent, mais non, il faut créer un système parlementaire, retour à la 4e République, c'est-à-dire la politique des partis. Donc, je pense que si je présente les choses comme ça, j'annonce d'avance la couleur, je suis plutôt d'avis de garder cette constitution. Mais on ne change pas la règle du jeu au prétexte que la règle du jeu a été déviée ou dévoyée. Et là, sur ce plan, peut-être aurais-je un point, évidemment, de désaccord avec Anne-Marie Condé, parce que elle, je ne parlerai pas en son nom, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas, de bonne politique de dire on change la règle du jeu, parce que la règle du jeu est mal mise en œuvre et de moins en moins bien suivie et appliquée.
Alors, la réponse de Marianne Condé, on change ou on ne change pas la règle du jeu?
Alors, Il faut changer la règle du jeu. Il faut changer la règle du jeu pour avoir plus d'équilibre entre la légitimité, la responsabilité et le pouvoir. Parce que là, on a un président qui, certes, est très légitime, mais en début de mandat, et qui n'est presque jamais responsable, parce que vraiment, on peut pratiquement pas le remettre en cause, et en tout cas, il n'a aucune responsabilité purement politique, puisqu'on ne peut pas l'écarter du pouvoir en cours de mandat, et il est pourtant très puissant. Donc ça, c'est pas possible en démocratie, et d'ailleurs, on sait que la moitié des pays de l'Union européenne ont eux aussi un président directement élu par le peuple. Et pourtant, dans tous ces autres pays, c'est le Premier ministre qui dirige la politique nationale, comme c'est d'ailleurs prévu dans le texte de notre Constitution. Mmh. Et justement, parce que si on n'est pas content de la politique du Premier ministre, eh bien, on peut l'inciter à changer sa politique. C'est ce que font les parlementaires en Allemagne, par exemple, quand ils incitent Mme Merkel à écouter la volonté du peuple pour infléchir sa politique dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Tandis qu'en France, bon, on a notre président qui, dans les faits, dirige tout, et quoi que pense le peuple, et même s'il y a des mécontentements très importants, qui continue à faire ce qu'il a envie de faire pendant 5 ans, ce qui pose problème quand même. Mmh.
Un dernier point sur cet argument possible avant de passer à la proportionnelle, parce que c'est un des sujets de discussion et de débat.
Oui. Je dirais qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le pouvoir soit intégralement dévolu au président de la République en l'état même de nos textes. Je pense qu'il y a eu des dérives notamment liées au pouvoir de plus en plus grand pris par l'équipe de l'Élysée. Il faut voir quand même sous Giscard, c'était les collaborateurs de Giscard qui étaient ministres de la Justice de facto. Ministre, bon, vous voyez, il y avait un problème qui commençait déjà à cette époque-là. C'était une question de pratique et de discipline. Pourquoi ? Je pense que la principale raison, c'est pas le fait que les fonctions du président et du premier ministre soient mal définies. C'est que le président, surtout à partir de la réforme du quinquennat, est devenu de plus en plus le seul élu du peuple tout entier, ça c'était le cas antérieurement, il n'y a pas de problème, mais aussi le seul qui soit le chef du parti majoritaire. Autrement dit, c'est cette réalité-là qui s'est imposée très vite. Or ça, effectivement, ça ne fonctionne pas de façon convenable. Mmh. Il est évident que on peut admettre que ce soit le Premier ministre qui soit le chef du parti majoritaire, mais certainement pas le président de la République. Et là, il y a quelque chose qui s'est dévoyé. On peut en discuter pendant des heures, mais je pense qu'il n'y avait pas de fatalité à ça. Mmh. Et je vois encore le geste d'impuissance de François Hollande, disant, vous savez, moi j'ai dû m'occuper de tout et être en première ligne sur toutes les questions, mais c'est pas ma faute, disait-il avec cet air triste et malheureux qu'il sait avoir, c'est que tout remontait vers moi. Bah, effectivement, notre pays a pris l'habitude que tout remonte vers le président. Ça peut se changer, des mœurs politiques, ça peut changer. Jamais la loi, disait Montesquieu, ne changera les mœurs. Mais en revanche, les médias, les intellectuels, les professeurs de droit, a fortiori, pour lesquels j'ai un immense respect, peuvent peut-être beaucoup plus que actuellement ce n'est le cas.
Voilà. Pour l'exécutif, on va parler un petit peu du législatif aussi, parce que c'est un pôle important, je dirais, de la vie constitutionnelle en France. L'élection des députés à la proportionnelle, c'est une autre des revendications des opposants. Est-ce qu'elle changerait totalement le visage de l'Assemblée ? Vous pouvez expliquer rapidement pourquoi, si c'est le cas, et comment ?
Oui, en effet, le scrutin majoritaire déforme l'image de l'opinion. C'est-à-dire qu'on va avoir une Assemblée nationale dans laquelle on a un effet de loupe sur la majorité. Donc un parti qui a une faible majorité va se retrouver avec une très grosse majorité à l'Assemblée, et ça va favoriser le fait qu'on aura peu de partis de représentés. Le plus souvent, sous la cinquième, on a eu 4 grands partis et les autres qui étaient quasiment inexistants. Alors que la représentation proportionnelle donne une image beaucoup plus fidèle de l'opinion. C'est pas tout à fait une photographie, mais pas loin. Donc ça permet aux partis minoritaires, aux petits partis comme les écologistes ou certains extrêmes, d'exister un peu plus.
Vous êtes favorable ?
Alors, moi, je pense, au départ, j'y étais, il y a quelques années, j'étais très hostile, en étant convaincue, parce que c'était ce qu'on m'avait toujours enseigné, que seul le scrutin majoritaire permet de gouverner. Or, justement, quand on étudie systématiquement tous les pays de l'UE, on voit que dans les autres pays de l'Union européenne, il y a quasiment toujours un scrutin proportionnel ou mixte. Mmh. Et en réalité, cela incite à un esprit de compromis. d'écoute d'autrui et de prise en compte de différents intérêts pour faire la loi. Alors qu'en France, on va toute voile dehors à droite, puis toute voile dehors à gauche, puis là on est théoriquement au centre, mais en réalité beaucoup à droite quand même. Et donc, c'est pas une politique qui est très à l'écoute de toutes les tendances.
Alors, Alain Gérard, Slama, la proportionnelle, c'est une bonne idée pour vous ?
Alors, c'est mon tour de citer le général de Gaulle, oui. Cette fois, en référence. De quoi est née la Ve République ? Elle est née du fait que de Gaulle avait constaté ce qu'il avait déjà vu sous la Troisième République, à savoir que sous la Quatrième République, il y avait des majorités électorale qui sortait, qui exprimait la voix du peuple, si vous voulez, et que derrière ces majorités électorales, les différents partis concoctaient des majorités gouvernementales qui ne correspondaient pas aux majorités électorales, mais qui étaient liées à des opportunités et à des négociations et à des compromis, en effet. Et il a pensé que ça avait beaucoup contribué, et il ne se trompait pas, à disqualifier, à discréditer la Troisième puis la Quatrième République. Un, on ne pouvait pas prendre décision, par exemple régler le problème de la guerre d'Algérie. Et deux, on ne représentait même pas l'opinion majoritaire dans le pays qui est censé s'être dégagé des urnes. De Gaulle a été le premier surpris quand il a fait ça, quand il a eu le bénéfice de cette constitution de 58 dont il n'était pas directement l'auteur, de voir que progressivement il a eu une majorité et que cette majorité finalement lui a permis de mener une politique. Et je crois que aujourd'hui on a, il faut pas tomber dans le piège de faire fabriquer, sculpter la majorité par le président. Et ça c'est ce qu'on reprochera à Monsieur Macron assurément, mais que la polysynodie, la multiplication des partis politiques qui négocient entre eux une décision, eh bien ça donne au pays de la pression du désordre et de la puissance, voire l'Allemagne en ce moment.
Alors, les leçons du passé, est-ce qu'on doit en tenir compte ? La proportionnelle qui génère de l'instabilité, elle permet, vous dites-vous, aux partis minoritaires d'être représentés. Alors comment concilier justement la stabilité des gouvernements et la représentation des petits partis ? Marianne Condé.
Eh bien, la plupart des pays européens, ils sont très bien arrivés pendant des décennies.
Comment ?
Eh bien, justement, alors avec certains mécanismes comme en Allemagne, la technique de la défiance constructive, et puis surtout avec un Premier ministre qui, lui, est le leader de la majorité. Parce que, à mon sens, la cause majeure de l'échec des 3e et 4e Républiques réside dans le fait que le président ne nommait pas, chaque fois qu'il le pouvait, le leader de la majorité comme Premier ministre. Or, pour que le Premier ministre puisse être puissant, puisse jouer son rôle de, à la fois, représentant de la majorité et son rôle qui consiste à structurer les petits partis pour former une majorité de gouvernement, si on retire au Premier ministre sa légitimité, si on choisit un second couteau comme Premier ministre, alors on ne peut pas avoir de structuration des partis. Or, c'est ce qu'on a fait sous les 3e et 4e Républiques. En revanche, dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Grande-Bretagne ou ailleurs, vous avez le Premier ministre qui est vraiment le leader de la majorité, donc il est légitime, il est responsable et il est puissant. Donc, le plus souvent, ça fonctionne très bien.
Vous êtes d'accord ?
Oui, l'Angleterre fonctionne très bien avec le two-party system, donc là je m'y rallie, mais chez nous malheureusement c'est pas ainsi que les choses passaient, c'est-à-dire qu'en effet, les présidents du Conseil pressentis sous la 4e République défilaient devant Monsieur René Coty par exemple, et puis finalement on arrivait, après en avoir fait tomber une dizaine, à en trouver un. C'est ce que Édouard Herriot appelait les beaux jours de la République parlementaire. Et il est évident que ces beaux jours, on n'a pas envie de les revoir.
D'accord. L'exécutif fort. On est comme en France, c'est le cas en ce moment, disent en tout cas les partisans de la 6e République, on n'est quand même pas dans le cadre d'un pouvoir absolu. Les contre-pouvoirs sont quand même importants en France. Le Parlement joue son rôle, les syndicats, les médias. Marianne.
On n'est pas du tout dans une dictature, hein, que les choses soient claires. Il faut appeler un chat un chat. Certes, on trouve que le président a trop de pouvoir, mais on n'est quand même vraiment pas dans une dictature. Ça, c'est certain. Ceci dit, il y a encore trop de choses, comme vous le disiez, qui remontent à l'Élysée. Un de mes collègues disait « Oui, mais en France, c'est un peu comme s'il y avait l'élection du Père Noël. » C'est-à-dire qu'effectivement, les Français votent pour le président, s'imaginant qu'il va pouvoir tout faire, tout décider, tout changer. Et ils sont forcément déçus. Et quel que soit le président, on l'a vu avec Monsieur Sarkozy omniprésent, avec François Hollande qui voulait être plus normal, avec Monsieur Macron qui voulait être plus au centre, forcément, ou très rapidement, leur légitimité se dégringole, se casse la figure, parce qu'on attendait trop d'eux. Donc, si on veut des institutions plus raisonnables, il faut plus de collégialité. Et la collégialité, elle est prévue au gouvernement.
Cette idée d'une sixième république, Alain Gérard Slama, d'un changement radical, on va dire, c'est un débat récurrent en France. L'historien que vous êtes peut en témoigner, non ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il est clair que les projets de révision de la Constitution ont été très nombreux, et je dirais même que pour la Ve République, les projets ont pu être déjà nourris, pas même par De Gaulle, mais sous la Quatrième République, par des gens qui sont impopulaires, comme Guy Bollet et quelques autres, qui avaient concocté des propositions de renforcement du pouvoir du président et de l'exécutif. Parce qu'il souffrait précisément d'un pouvoir parlementaire dont, au fond, la vocation est d'être un contre-pouvoir bien plus que de faire les lois.
Et là-dessus, on n'est pas d'accord.
Alors, voilà, je savais. J'ai amené le pire pour la fin.
Marianne Condé.
Oui, non, un Parlement, il est là pour faire la loi, pour parlementer. Hans Kelsen le rappelait très bien. On ne fait des bonnes lois que quand on parlemente, quand on discute, quand on échange des points de vue contraires, des intérêts contraires. Quand on met en lumière des intérêts contraires, là on arrive à des compromis au bout de longues discussions, parce que pour faire une bonne loi il faut du temps, et donc c'est le Parlement qui doit encore aujourd'hui faire la loi et qui doit jouer vraiment un rôle central. Il ne doit pas se contenter de contrôler l'exécutif.
Je ne vous ferai de concession sur ce point que pour critiquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une logique prévalente qui est celle du centre. Et le gouvernement du centre est un parlement dans lequel il y a un groupe central, confondant la droite et la gauche. Je crois que la droite, ça existe, la gauche, ça existe. Le fait d'avoir une majorité confondant la droite et la gauche, cela rend impossible à la fois la fonction législatrice, puisque nous voyons très très bien d'ailleurs que la majorité des lois, très largement, sont concoctées par le pouvoir, et même par l'Élysée, ce qui est quand même un problème. Et d'un autre côté, la fonction de contre-pouvoir, je la cherche. Je la cherche. Et les Français aussi la cherchent. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Parce que ça discrédite, ça contribue à discréditer le système. Et comme en France, dès que le système va pas bien, on veut se débarrasser du système, je suis de ceux qui s'accrochent au système pour essayer de le sauver.
Oui, d'autant qu'il peut être modifié, cette constitution. Elle a subi d'importantes modifications. 24 fois, elle a été révisée depuis 1958.
Oui, elle est faite pour être adaptée.
Il y a quand même une forte valeur symbolique dans le changement de constitution de République. Donc, c'est un geste politique fort, non, Marianne Condé?
Et oui, parce qu'on pourrait se dire, mais il suffit de modifier quelques petites choses, et effectivement, des modifications relativement peu importante en nombre pourrait suffire. Par exemple, transférer le droit de dissolution des mains du président de la République dans celles du Premier ministre. Ça, pour moi, ça serait très important, parce que c'est précisément la deuxième cause majeure de l'échec des 3e et 4e Républiques. Si le gouvernement était faible, c'est parce qu'il n'avait pas dans les mains aussi la possibilité de dissoudre le Parlement s'il se comportait n'importe comment. Oui. Donc, si on redonne au Premier ministre ce droit de dissolution, déjà, ça sera très important.
Bon. Oui. À vous la conclusion, il nous reste quelques secondes.
Non, moi j'aurais une solution, une réponse beaucoup plus simple, c'est le saint ou le contre-saint. Que le président ne puisse rien faire sans contre-saint du Premier ministre, déjà ça changerait beaucoup les choses. On ne serait pas obligé de donner au Premier ministre le pouvoir de faire ou
de validation, d'aval.
Voilà, bien sûr, c'est nécessaire. De donner au président de la République, au Premier ministre, le pouvoir de faire et défaire les carrières. Il n'y a que trop tendance pour ceux qui que ce soit l'actuel ou ses prédécesseurs.
Là-dessus, nous sommes d'accord.
Alors, on va terminer sur un point d'accord. Alors, ça n'est pas si souvent dans le débat. Merci, on n'en dira pas plus à tous les deux. Marianne Condé, constitutionnaliste, professeure de droit public à Paris-Sorbonne. Je rappelle le titre de votre livre, Le droit constitutionnel aux éditions LGDJ, et Alain Gérard Slama, essayiste, historien. Votre dernier livre, vous s'appelle Les écrivains qui ont fait la République, c'est chez Plomb. Merci à Florence Pons qui a préparé cette émission, à Fabrice Viollet qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale, un nouveau journal dans quelques secondes.